France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque semaine, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invitée, écrivaine, traductrice, essayiste, a choisi d'évoquer un philosophe musicien au style reconnaissable entre tous, libre penseur du XXe siècle, et d'évoquer une œuvre sur le temps qui passe et que l'on ne remonte pas, de quoi comprendre nos angoisses morbides, nos bouffées nostalgiques, de quoi surtout se réconcilier avec l'avenir, ses demi en terrasse et ses surprises.
J'ai autour de moi des centaines d'étudiants quand même, qui sont des amis. J'ai 500 amis, dont 395 intimes, ce qui est beaucoup. Maintenant, évidemment, je ne me rattache à aucune chapelle, ça c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi je m'affilierais à un troupeau quelconque. Je n'ai pas l'esprit grégaire, parce que les étudiants, ce n'est pas un troupeau, c'est un peuple, c'est une nation. La nation étudiante. Et en 68, c'était même des peuplades, enfin, un peu sauvages. Mais j'étais à Kimaté, dans ces peuplades sauvages. J'étais chez moi avec eux. Et on était dans une république. Ce n'est pas une république de sauvages. Et quelquefois, quand je rentrais en ville, après avoir quitté la faculté de Sancier, j'avais l'impression de revenir dans un univers civilisé. Et j'étais très étonné de voir des gens aux terrasses, buvant leur demi tranquillement, après avoir passé une journée à crier, à nous démener, à faire je ne sais pas quoi d'ailleurs. Parce que vous savez, les journées de Sancier, les journées de la Sorbonne en 68, c'était vraiment épuisant. Il fallait vraiment de la trempe pour tenir le coup. Mais quel que soit l'intérêt de tout ça, quand les années sont comptées, comment dit-on, l'espérance de vie, la marge qui nous reste par devant se rétrécit, ça me nuise, chaque jour davantage, alors on court au plus pressé. Et le plus pressé, quand même, le plus important, c'est de s'exprimer, c'est de dire ce que j'ai encore à dire, n'est-ce pas?
Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Bienvenue dans le souffle de la pensée, je suis ravie de vous accueillir parce qu'on devait faire cette émission, j'ai été malade et enfin on l'a fait.
Oui.
Et je suis très heureuse de parler de Jean Kelevitch avec vous. Vous êtes écrivaine, traductrice, on peut notamment citer toutes vos traductions d'Aaron Appelfeld. Vous êtes essayiste, de vous est paru cet essai « La surprise, une innocence retrouvée » aux éditions Autrement. Vous avez beaucoup souri, ri en entendant la voix de Jean Kelevitch. C'était dans cette archive de 1979 dans Radioscopie sur France Inter avec Jacques Chancel. En 1985, il meurt, donc c'est 6 ans avant sa mort. Mais à chaque fois, quel plaisir de l'entendre. Il est drôle, les demi en terrasse, quand il parle des étudiants, ce peuple, cette république sauvage, c'est incroyable.
Oui, merci beaucoup d'avoir choisi cet extrait pour commencer, parce que d'abord, c'est toujours un bonheur d'entendre la voix de Jean Kelevitch, qui était un musicien, un pianiste, jouant beaucoup les compositeurs français. Mais pour moi, c'est un orateur qui fait du jazz. Parce qu'il est là en permanence dans une forme d'improvisation, de variation. Et chaque mot, chaque intonation est une note habitée par sa musicalité. Et puis précisément ce passage, je vous suis reconnaissante de l'avoir choisi, parce qu'il y parle de ce peuple de la jeunesse, ce peuple sauvage, avec énormément d'affection évidemment, on l'entend, puisqu'il considérait que ses étudiants étaient ses amis. Et pour moi, la jeunesse est un des mots-clés du livre dont on va parler et de l'œuvre de Jean Kelevitch. Pas en termes de jeunisme, d'envie de paraître jeune.
Alors, au contraire.
Pas, au contraire. Ouais. Au contraire. Mais la jeunesse, bon, je mets les pieds dans le plat, la jeunesse comme étant l'incarnation du devenir du temps. C'est-à-dire du temps qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête à aucun moment, et qui ne s'arrête pas avec une génération, une bonne fois pour toutes, qui pourrait considérer que le monde est tel qu'il est et qu'il n'y a pas grand-chose à y changer. Non, il continue inlassablement, le temps, d'être irrigué par les nouvelles générations qui apportent quelque chose d'autre au monde, une autre manière d'être. Et Jean Kelevitch, pour moi, dans son rapport à la jeunesse, exprimait aussi quelque chose de son rapport au temps.
Alors vous avez choisi L'irréversible et la nostalgie de Jean Kelevitch. C'est un ouvrage qui date de 1974. À ce moment-là, Jean Kelevitch est quand même un philosophe déjà connu. Et en même temps, dans ce livre, on y trouve peut-être toute l'essence, je ne veux pas être réductrice par là, mais de la philosophie de Jean Kelevitch sur le temps, à savoir, comme vous l'avez très bien dit Valérie Zenati, que le temps, en fait, on ne peut pas y échapper. mais le temps nous échappe sans cesse. C'est l'irréversible, on doit aller tout le temps de l'avant. D'ailleurs, aller de l'avant, c'est vraiment une injonction contemporaine, mais c'est pas ça non plus chez Jean Kélévitch. C'est pas du jeunisme, c'est pas non plus une injonction à performer, aller de l'avant, s'ouvrir uniquement à l'avenir. C'est beaucoup plus subtil que ça.
Oui, c'est sûr, c'est pas un coach, Jean Kélévitch, ça c'est sûr. En revanche...
Même s'il parle de la vie quotidienne.
Ah, beaucoup.
De manière
beaucoup.
Magnifique.
D'ailleurs. Justement, je pense qu'il fait partie de ces philosophes qui ont considéré qu'il n'y avait pas la vie d'un côté et la pensée philosophique de l'autre. Mais qu'au contraire, la philosophie était dans la vie et la vie devait nourrir la pensée philosophique. Et bon, une de ses phrases que j'aime beaucoup, c'est... Il dit « On peut vivre sans joie, sans amour, sans musique, sans philosophie, mais pas si bien. » Donc il met la philosophie sur le même plan que l'amour, la musique et la joie.
C'est intéressant, pas si bien.
Mais pas si bien.
Mais on pourrait même dire très mal, non ?
Oui, oui, oui. Alors,
c'est marrant cette coquetterie à ne pas dire véritablement...
Oui, parce que...
C'est pas une forme de figure de style, une litote un petit peu pour dire le contraire.
Jean Kélévitch, c'est quand même beaucoup aussi l'ironie. On l'entend dans sa voix. C'était quelqu'un de... Enfin, je ne l'ai pas connu autrement que par ses textes et par sa voix et par ce qu'on dit de lui. Mais il pratiquait une forme de sérieux et d'autodérision, d'ironie donc. Et donc il faut l'entendre dire peut-être le mais pas si bien, je pense que oui c'est une litote éclatante.
Alors pourquoi ce texte-là en particulier de Jean Kélévitch ? C'est vrai, je l'ai dit, qu'on y trouve quelque chose d'essentiel dans sa pensée, dans son rapport au temps, ses inspirations aussi par rapport à Bergson sur la durée. Il y a aussi beaucoup, énormément de passages sur la musique, vous l'avez dit, c'est un philosophe musicien, on l'entend à sa voix, on le connaît aussi par ses écrits. Mais pourquoi ce texte en particulier ?
Alors parce que c'est le premier que j'ai lu de lui. Et très récemment, je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai longtemps été, disons, jusqu'à mes 50 ans quasiment, et j'en ai 55 aujourd'hui, j'ai longtemps été extrêmement intimidée par la philosophie, parce que je n'ai pas étudié la philosophie du tout, et donc j'avais le sentiment que pour lire de la philosophie, pour l'approcher, il fallait que je reprenne tout depuis le début, depuis les Grecs, que je lise tous les Grecs, tous les médiévistes, toute la philosophie moderne, puis contemporaine. Et c'était évidemment une tâche qui me semblait insurmontable. Et j'ai été désinhibée par des philosophes vivants contemporains que j'ai rencontrés, que j'ai commencé à lire, avec lesquels j'ai commencé à discuter. Donc je pense à François Nudelman, Frédéric Worms, Catherine Chalier, à écouter Cynthia Fleury. Et ces philosophes très vivants, par leurs textes, m'ont permis d'accéder à leurs aînés, à certains de leurs aînés. Et parmi eux, il y a eu Jean Kélévitch. J'ai commencé à l'approcher, on va dire, avant le premier confinement, donc un peu avant 2020, à m'y intéresser, à tourner autour de cette question du temps, en lisant Bergson d'ailleurs. Et lorsqu'il y a eu cet événement dont, je pense, on ne s'est pas tout à fait remis. Et pourtant, le temps a continué de s'écouler et on ne vit plus chaque jour en pensant à ces moments de pétrifiés de 2020. Quand il y a eu cette suspension du temps, cet arrêt de tout signe de vie dans les rues, quand il y a eu, tout à coup, pour tous, une consistance du temps qui était celle d'un jour sans fin, d'un jour qui se répétait, surtout de cette possibilité inouïe d'avoir les trois quarts de la planète terrés chez soi du jour au lendemain, brutalement. C'était un effet du temps, d'une décision, donc du temps dans nos temps, dans le temps de nos vies. Quand il y a eu ce moment-là, j'étais incapable de lire, contrairement à beaucoup de gens. En revanche, j'avais mes oreilles grandes ouvertes et j'ai commencé à écouter les cours de Jean Kélévitch et à écouter toutes les archives que Radio France pouvait proposer avec lui. Et à force de l'écouter, le premier livre que j'ai ouvert, c'est L'Irréversible et La Nostalgie. Et donc, étant, encore une fois, absolument pas philosophe, ni très armé sur le plan des concepts pour lire de la philosophie, je l'ai lu, j'ai accepté de le lire en comprenant environ, je dirais, 20%, peut-être 30% parfois de ce que je lis. Je ne prétends pas du tout avoir la capacité d'analyser et de comprendre tout ce qu'écrit Jean Télévitch. En revanche, les 20 ou 30% qui me parviennent et qui sont en général, vous disiez tout à l'heure, il parle du quotidien, qui sont en général les passages où il décrit simplement la vie et les mouvements de la vie avec ses mots et parfois avec une immense poésie, toutes ces parties-là qui sont disséminées dans le texte m'ont atteinte et m'atteignent encore en plein cœur et ont fait partie des grands bouleversements de ma vie en termes de rapport au temps.
Donc quand vous avez ouvert L'Irréversible et la nostalgie de Jean Kélévitch, Valérie Zenati, vous avez été ébloui d'une certaine manière, c'est-à-dire même par, vous disiez, c'est 20-30%, et c'est important de le dire, parce que Jean Kélévitch, ça peut être impressionnant, à la fois il a cette voix, on peut le connaître, on peut l'avoir entendu, mais effectivement, ouvrir un livre de Jean Kélévitch, c'est parfois tomber sur des phrases alambiquées, sur des contradictions, sur une absence de système qui fait qu'à la fin, on se demande ce qu'on a bien lu et ce qu'il voulait nous dire, mais c'est pourcentage-là suffit à le rendre éblouissant.
Mais oui, mais on peut se dire en quelque sorte que c'est... Enfin, pour moi, Jean Kélévitch, c'est comme la vie. C'est-à-dire, je ne prétendrai jamais...
Ça, c'est très bien, Jean Kélévitch, c'est la vie.
Oui, oui, dans le sens où qui peut prétendre tout comprendre à la vie ? Personne, absolument personne. Et donc, à l'existence, à l'histoire, et donc... Comprendre 20%, c'est déjà une chance immense. Et surtout, j'ai le sentiment qu'en fait, il y a chez lui, en fait, il ne cède rien à l'intelligence, il ne cède rien à la générosité, il ne cède rien. Et donc, il nous entraîne dans une pensée qui est à la fois extrêmement élaborée, profonde, complexe et pour moi, parfois opaque. Mais dans le même temps, parce que c'est lui et qu'il a ce mouvement vivant, il nous entraîne dans une, je dirais, voilà, une sorte de sarabande de la pensée qui nous déplace à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous fait revisiter notre rapport au monde, à la vie. Quand il dit que le temps est sauvage et indomptable, voilà, c'est pas un concept philosophique, c'est de la poésie à ce moment-là. Et c'est sans doute la meilleure description du temps, parce que on pourrait parler des heures du temps, évidemment, mais sauvage et indomptable, c'est vraiment un des aspects du temps qui nous rappelle que quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide, quoi que l'on prévoit, quelle que soit notre puissance, l'avenir nous échappe toujours. Alors, ça peut paraître très simple, on dit, ben oui, on ne sait rien de l'avenir.
Non, mais il faut quand on le percute.
Mais quand on le percute,
c'est différent.
Quand on l'intègre à nos vies, et quand on se dit, oui, en effet, la seconde qui va venir est nouvelle, et je ne sais rien d'elle, parce que tout peut se produire à chaque instant. Et ce tout, c'est aussi bien la construction que la destruction. C'est la rencontre amoureuse, c'est la guerre, c'est l'attentat, c'est l'accident, c'est la naissance, c'est la mort. Et alors, c'est aussi pour ça que j'ai écrit La Surprise, et à la fin de, enfin, à la fin de laquelle, ou duquel, je remercie Vladimir Jean Kélévitch, parce que, heureusement, cette conscience que chaque seconde est nouvelle, on ne peut pas l'avoir en réalité à chaque instant, parce que ça nous rendrait fous. Il faut du temps long pour construire quelque chose. Mais les moments de surprise de nos vies, qu'elles soient intimes ou collectives, nous rappellent à cette dimension nouvelle du temps, qui est à la fois un désastre, parce que les choses aimées et disparues ne reviendront pas, les êtres surtout, mais qui est à la fois une possibilité extraordinaire parce que tout peut advenir, y compris les plus grandes joies.
La nouveauté, effectivement. Qu'est-ce que vous avez retenu de Jean Kélévitch quand vous l'avez lu ? En quoi ça a marqué un tournant pour vous quand vous l'avez lu ? Parce qu'effectivement, il y a cette thèse, mais plus qu'une thèse, parce que le mot thèse n'est pas très joli à cet égard, tellement ça change quand même de percuter que le temps... On ne peut jamais l'attraper, on ne peut jamais agir dessus, qu'il nous échappe parce qu'il s'écoule ou parce qu'il nous échappe parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais au-delà de cette idée-là, les 20-30%, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Est-ce que, par exemple, ça a changé votre manière d'écrire, de lire, de vivre ? Est-ce que ça a eu cet impact-là ?
Ah oui, totalement. Et je reviens au moment où je l'ai découvert, donc pendant cet arrêt du temps, en tout cas cet arrêt apparent, puisque le temps a continué de s'écouler.
C'est exactement ce que dit Jean Kélévitch. Le confinement, le Covid, c'est exactement ça, parce qu'effectivement, on l'a vu comme une rupture, mais le monde a continué. Oui. On parlait d'un avant et d'un après, comme si au milieu, c'était un trou. Et Jean Kélévitch nous dit bien, mais en fait... quand vous dormez, vous pensez que le temps s'arrête, mais il ne s'arrête pas. Quand vous êtes dans un wagon, dans le train, le temps ne s'arrête pas dans la ville que vous venez de quitter. La Belle au bois dormant, les 100 ans sont passés. Oui. Il a des exemples comme ça, c'est fabuleux.
Oui, tout à fait. Bien, c'est précisément la rencontre entre ce livre et le moment que l'on vivait, et que je vivais personnellement, on va dire, a été fondamentale parce que ce que moi j'ai compris en tout cas à ce moment-là, une des choses qui s'est éclairée, c'est que sur le plan politique par exemple et intime aussi, on avait peut-être tendance à envisager les choses en fonction de ce qui était déjà établi et en fonction donc du passé. C'est-à-dire que, bien sûr, un pays ne naît pas en un jour, donc il y a des institutions, des systèmes politiques qui ont été créés tout au long des siècles et qui font que les choses tiennent. Mais les décisions politiques et les décisions intimes de nos vies sont sclérosées, à mes yeux en tout cas, je pense, et aux yeux de Jean Télévitch, si elles se rattachent uniquement à ce qui a été et à ce qu'on voudrait qu'il perdure. Alors que les choses changent. C'est-à-dire que, pour dire les choses plus clairement, pour moi, et d'ailleurs on l'a vu chez certaines personnes, le confinement a donné envie à des gens de vivre autrement. Il y a des gens qui ont changé de métier, il y a des gens qui ont quitté leur amoureux ou leur amoureuse, il y a des gens qui se sont mis en couple, il y a des gens qui ont décidé de faire un enfant, il y a des gens qui ont décidé de partir vivre à la campagne. C'est-à-dire que cette expérience du temps a été suffisamment bouleversante pour réorienter des vies intimes. Or, pour moi, une des catastrophes, c'est que dans ce moment-là où, tout à coup, ce qu'on appelle la valeur travail avait totalement changé, enfin, ce que certains appellent la valeur travail, mais le travail avait évidemment totalement changé d'incarnation dans nos vies, puisque la plupart des gens ne travaillaient plus. Ce moment où il y a eu tout à coup un retour incroyable de l'État-providence a donné le sentiment qu'on pouvait vivre peut-être autrement. On pouvait peut-être vivre sans travailler. Peut-être que le travail, peut-être que l'argent n'était plus aussi nécessaire qu'avant.
On s'est aussi rendu compte que certains travails étaient plus importants que d'autres.
Bien sûr.
Ceux qui continuaient justement à travailler.
Oui, il y a eu ce terme d'essentiel, des métiers essentiels. Et donc, les hiérarchies se sont inversées avec un pouvoir qui, jusque-là, était plutôt plus libéral que social. Et là, tout à coup, c'était le pouvoir social, enfin, c'était l'État-providence dans toute sa splendeur. Or, les leçons n'ont absolument pas été tirées de ce moment. Et je dis pas que c'était forcément possible d'ouvrir tous les robinets, mais la force de cette expérience aurait dû, selon moi, insuffler quelque chose en politique. Une autre vision du politique. Parce que le politique, c'est aussi l'organisation du temps. Quand, dans les années 90, le pouvoir socialiste parle des 35 heures, tout à coup. Pourquoi on passe de 39 heures à 35 heures? Parce que au Parti socialiste à ce moment-là, il y a cette conscience que les gens ont envie de vivre un peu autrement, en accordant plus de temps à leurs loisirs, à leur famille, qu'il y a beaucoup de familles dont les parents sont séparés et qu'il faut peut-être plus de temps, des questions de l'air d'alterner. Et donc il y a une conscience sociale du temps et du rapport au temps qui demande à être réinterrogé et qui fait que à ce moment-là, Martine Aubry fait la proposition des lois des 35 heures. Ça veut dire que l'organisation du temps est quelque chose de très politique. Et que selon moi, c'est ce que j'ai rencontré en lisant ce livre.
Qui n'est pas politique, hein. Il faut le dire.
Qui n'est pas politique.
Mais qui a ces implications-là quand on le lit. On ne peut pas ne pas y penser.
Alors, il l'a. Pour moi, c'est en fait, la grandeur d'un livre, c'est ce qu'il vous donne sans le dire. Il ne proclame rien. Jean Télévitch n'est pas là pour faire ni un programme politique, ni un programme de vie. Il donne, pour moi, des clés, pour utiliser un terme qui est banal, mais qui est juste, pour actionner des nouvelles serrures.
Alors, il faut quand même dire que, effectivement, même si Jean Télévitch n'a pas dans ce texte un programme politique, et même s'il ne donne pas de leçons, il y a quand même une idée qu'il faut absolument retenir. Valérie Zenati, avant qu'on écoute ce premier texte, c'est quand même que le temps est irréversible, on ne peut rien y faire. On ne peut pas retourner en arrière et on ne peut pas choisir, décider de tout à l'avenir, avenir qui lui-même est bouché par quand même la perspective de la mort. Donc quand même, les premières pages de Jean Télévitch, il nous assène quand même qu'on est impuissant. Il y a quelque chose au départ d'assez, non pas désespérant, quand on lit, parce que ça reste un texte très joyeux, mais quand même de nous dire, vous ne pouvez pas rajeunir, vous ne pouvez pas revenir en arrière, les trois quarts de votre vie est voué à l'abolition et à l'oubli, et il a cette phrase incroyable, il dit, l'irréversible, ce n'est pas un été à Capri, c'est un rendez-vous à la gare Saint-Lazare. Mais évidemment, parce que le week-end à Capri, je vais m'en souvenir, donc il va d'une certaine manière surnager dans l'irréversible. Mais ce rendez-vous gare Saint-Lazare, non, on va tous l'oublier. C'est quand même un constat qui est un peu amer. C'est-à-dire là, ça, il nous renvoie quand même à notre impuissance, Jean Kalevitch.
Alors, je ne sais pas si c'est de l'amertume, mais parce qu'au contraire, après, c'est que je parlais de serrure qui va ouvrir. Ce constat est un levier aussi, et on va peut-être y venir dans un des passages, qui permet de faire distinction entre l'irréversible et l'irrévocable. C'est-à-dire que, oui, ce qui a été n'est plus. Mais ce qui a été tout de même. Et il y a peut-être quelque chose, notamment du côté des joies, qui peut continuer à nourrir le présent. On va le voir quand on va parler de l'espoir et du désespoir. Donc, je ne dirais pas qu'il y a de l'amertume, mais il inscrit, disons qu'il reconnaît les limites de l'être, qui sont vraiment, il essaie de les tracer dans cette impuissance à retenir le temps, à s'y promener, en tout cas de manière réelle, dans le temps réel. On ne peut pas revenir en arrière dans le temps réel. Mais je dirais qu'à partir de ce constat d'impuissance, il ouvre au contraire des champs de possibilités et de liberté.
Le désespoir, qui est totalitaire et toujours maximal par définition, tend à occuper l'espace entier de la conscience, à s'installer dans tous les vides de l'espoir et du projet, à boucher l'appel d'air de l'avenir. Mais heureusement pour nous, l'espérance est aussi envahissante que le désespoir, et elle est sans cesse sur le point de régénérer un univers entier et un immense avenir autour du gage le plus humble et de l'indice le plus fragile. L'homme découragé a vite fait de reprendre confiance, et il se reprend follement à espérer l'invraisemblable. La noirceur absolue du désespoir, sans mélange d'espoir, vire aussi facilement en son contraire que la blancheur immaculée de la pureté purissime. Car elle est, comme tout superlatif, éminemment instable. Un millimètre en deçà ou au-delà, et l'apogée n'est plus l'apogée. Et le maximum a cessé d'être maximal. Voici qu'au centre de la profondissime ténèbre, une très douteuse blancheur apparaît. Cette lueur pâle est comme l'espérance de l'aube à minuit, la promesse d'un lointain printemps dans la nuit du solstice d'hiver. Ou si l'on préfère d'autres images, cette lueur est comme la première déchirure de ciel bleu et le premier espoir d'embellie à travers les nuages bas du souci. Une issue est enfin offerte à l'éternelle mélancolie. Un petit espoir est une vaste espérance, une goutte d'espoir dans l'océan du désespoir, une dose homéopathique, une chance infinitésimale, et le désespoir a cessé d'être désespéré. C'est le cas de le dire, si un espoir est permis, tous les espoirs sont permis.
L'irréversible et la nostalgie de Vladimir Jankélévitch, lu par Anaïs Isbert. C'est vous, Valérie Zanatti, qui avez choisi de parler ce texte ce matin et qui avez notamment choisi cet extrait. Alors, je l'ai dit juste avant qu'on l'entende. Avant d'arriver à cette note d'espoir, Jankélévitch a été plus... alors, pas amer, vous avez dit, je dirais peut-être plus radical, en tout cas, en nous disant « Il y a une impossible résistance à l'irréversible, on ne peut rien y faire, il n'y a pas d'éternel retour, il n'y a pas de deuxième fois, il n'y a pas de rajeunissement possible. » Et là, tout à coup, dans le troisième chapitre, enfin, une note d'espoir. Si quand même, il y a quand même de l'espoir dans ce qui pourrait nous sembler être une situation désespérée.
Oui, et l'un des mots importants de ce texte qui vient d'être lu, c'est l'instabilité. C'est-à-dire, il nous rappelle que rien ne dure, en effet. Mais voilà, dans ce rien ne dure, on va dire que les catastrophes ne durent pas et les moments de grâce non plus. Et alors là aussi, il faut pas en faire quelque chose de plat parce que c'est quelque chose qu'on le sait. Mais quand on éprouve, ou quand en pratiquant, ça pensée, sa lecture, quand on le fréquente, je crois qu'on arrive justement à être certainement sensible à ces moments où, vous voyez, voilà, une journée, on va dire, une journée où rien ne va. Voilà, c'est un peu la loi des séries. Je sais pas, le lave-vaisselle.
Il n'y a plus de café.
Tombe en panne. Il n'y a plus de café.
Métro est en panne.
Le métro est en panne. Vous êtes pas habillé comme vous êtes. Voilà, vous avez des chaussures trop petites. Vous avez mal aux pieds. Vous avez un rendez-vous qui est annulé alors que vous l'attendiez. Et rien ne va. Et puis, soudain, vous allez rencontrer quelqu'un dans le métro avec qui vous allez discuter ou dans le train et avec qui vous allez avoir un sentiment de rencontre, de reconnaissance mutuelle, parce que c'est, il y a rien de plus gracieux que la rencontre, et il en parle énormément, Jean Kulevitch. La rencontre, ça fait partie de ce qui nous rappelle à la nouveauté permanente du temps, parce que vous rencontrez des gens que vous ne connaissiez pas une seconde avant. Et donc, par la grâce d'une rencontre, par la grâce peut-être d'une musique que vous entendez et qui va ramener comme une bourrasque des années de légèreté, d'amour, de soleil, par la joie d'un cadeau reçu alors que vous ne vous y attendiez pas, quelque chose va basculer et vous allez reprendre confiance dans la vie. Et pour moi, Jean Kulevitch permet dans cette instabilité permanente du temps, il permet de reprendre pied ou de se ressaisir parce que il ne nie pas le côté sombre du temps, il ne nie pas la mort, mais il reste toujours du côté de ce que la vie peut contenir sans qu'on s'y attende et dans l'ignorance. C'est pour ça que la surprise s'appelle une innocence renouvelée. Parce qu'en réalité, on ne sait jamais tout. Et qu'il y a des événements de nos vies qui nous percutent à un tel point qu'on a l'impression qu'on va devoir tout réapprendre et qu'on n'avait pas si bien compris que ça. Et avec Jean Kulevitch, j'ai ce sentiment permanent. Et c'est une grâce de ne pas avoir tout compris. Avoir tout compris, c'est triste. Voilà, d'autres l'ont dit, Mallarmé l'a dit, voilà, la chair est triste et j'ai lu tous les livres. Donc heureusement qu'on ne comprend jamais tout. Et Jean Kulevitch nous aide à être dans cette instabilité-là.
Le texte qu'on a entendu est extrait d'un chapitre, le troisième, qui s'appelle « La complaisance à l'irréversible ». Le chapitre suivant sera « Le consentement à l'irréversible ». Mais ce terme de complaisance, il m'a beaucoup interpellée parce que on voit en fait que Jean Kulevitch, après avoir été implacable sur cet irréversible qui est tel quel et face auquel nous sommes impuissants, essaye de nous amener vers l'idée qu'en acceptant cette finitude, cette impossibilité, on va, pardon du coup pour cette phrase un petit peu développement personnel, on va mieux vivre. C'est-à-dire qu'on va être plus joyeux à partir du moment où on sait qu'on ne pourra pas revenir en arrière et qu'on ne pourra pas éviter la mort. Ça va nous permettre d'être plus dans le présent. Mais ce terme de complaisance, il est un petit peu complaire à quelque chose. Être complaisant, c'est pas très valorisant en fait. Ça veut dire qu'on s'en accommode d'une certaine manière. Oui. Or, être dans l'ouverture de ces occasions, de cette nouveauté dont vous parliez, Valérie Zanatti, ça suppose quand même d'être dans un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir envie de parler à un inconnu dans le métro.
Oui, bien sûr. Bien sûr. L'aptitude... à un moment donné, Jean Kulevitch dit le vrai temps du temps, c'est le devenir.
Oui.
Parce qu'on sait bien que aujourd'hui est aujourd'hui, mais hier, aujourd'hui était demain. Donc, ce temps, et on essaie de l'organiser. Mais le temps est en devenir. Et sur la complaisance, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est comme ça que moi je le lis, je me trompe peut-être, mais oui, il y a une acceptation de ce qui a été, de ce qui ne sera plus. Enfin, elle est nécessaire. Je crois qu'il met en garde contre le passéisme. Et en cela, pour moi, il est plus nécessaire aujourd'hui que jamais, politiquement parlant. C'est-à-dire que Jean Kulevitch, c'est pas quelqu'un qui vous dira que la France d'avant était mieux.
C'était mieux avant.
Il ne dira jamais ça. Il dira qu'on peut avoir la nostalgie d'un moment précis, d'un état précis. Ou comme le disait Sempé, je crois, oui, le Paris des années 50 était nettement mieux qu'aujourd'hui parce que j'étais jeune. C'est ça que Sempé dit. C'est pas parce que le Paris des années 50 en lui-même était mieux. Et donc, il me semble que quand Jean Kulevitch nous met en garde, enfin, parle de cette complaisance, il y a à la fois, il faut l'accepter, l'irréversibilité, mais surtout ne pas rester enfermé dans ce désir de retrouver ce qui a été perdu, même si on en parlera peut-être plus tard. L'artiste, justement, l'écrivain, l'artiste, peut chercher ce qui a été perdu, peut chercher les réminiscences. Et Jean Kélévitch ne parle pas toujours des réminiscences d'une manière que moi, je reprendrai à mon compte.
Il en parle comment ?
En tout cas, dans ce livre, dans les passages que j'ai relus, on a presque le sentiment que c'est une... qu'on se fourvoie un peu, ou que c'est une illusion, qu'il y a quelque chose dans la réminiscence qui ne nous place pas face à la vérité de l'irréversibilité du temps.
Qu'on est dans l'illusion.
On est dans l'illusion. Or, par exemple, vous avez cité Aaron Appelfeld, que je traduis. Aaron Appelfeld écrivait à partir des réminiscences et pas du souvenir. Parce qu'il disait que le souvenir est quelque chose de figé. On se raconte une fois pour toutes le week-end à Capri. On le raconte, on a rapporté des photos, on les montre à ses amis et on va pouvoir toute sa vie raconter inlassablement le jour où on est arrivé à Capri, le restaurant où on est allé, la petite balade qu'on a fait. Et ce récit va figer les choses. La réminiscence, c'est éventuellement se mettre à sa table et avoir le rendez-vous d'Arsène Lazare qui ressurgit subitement. Tel qu'il a été ou pas, peu importe, mais qui ressurgit de manière vivante dans l'écriture. Donc, moi, c'est aussi dans mes petits désaccords modestes avec Jean Kélévitch que je suis stimulée.
D'ailleurs, il parle de ce texte de Tolstoï qui a tenté d'écrire une journée, la journée d'hier, l'après-midi de ma journée d'hier, où en fait, il dit tâche impossible parce que les micro-événements qu'il tentait de raconter, qui n'étaient d'ailleurs pas des événements en fait, c'est-à-dire que tous les instants d'une journée sont impossibles à raconter parce qu'en fait, il regorge de nouveautés, effectivement. Et j'adore ce moment parce qu'en fait, Jean Kélévitch nous dit, oui, on raconte tous les grands récits, on va raconter les morts, les mariages, les élections. Mais si on tournait, il dit, le projecteur de l'attention sur la banalité, et effectivement, on pourrait mettre en fait des années entières en fait à revivre ce qu'on a vécu la journée d'hier.
Bien sûr, et même durant une seule heure de nos vies.
Ce qui serait quand même incroyable. Est-ce qu'on a envie de vivre ça ?
Alors, je ne pense pas parce que on et là je crois qu'il faut quand même vraiment rattacher Jean Kélévitch à Bergson sur lequel il a fait sa thèse et sur lequel il a écrit voilà un de ses livres. C'est que je crois que son mouvement, c'est vraiment comme pour Bergson, c'est le mouvement de l'être et de la vie, c'est dans la vitalité créatrice, on va dire, de l'être, est un mouvement tourné vers l'avenir. On crée parce qu'on est ces élastiques tendus vers l'avenir. On est dans un mouvement qui essaie d'apporter du neuf. C'est ça la création, c'est apporter du neuf. Quand on apporte quelque chose de neuf, on est donc en accord avec le temps qui est toujours neuf. Et il met en garde contre tout ce qui se sclérose. Aussi, je crois que à la question que vous posez sur a-t-on envie de ça, de revivre, on y répondra peut-être tout à l'heure avec Proust, mais que justement l'artiste, et Jean Kélévitch était un artiste de la philosophie, mais il n'était pas un romancier, il ne créait pas, on va dire, d'œuvres artistiques. Je pense qu'il n'a pas éprouvé ce qu'on éprouve nous en écrivant, par exemple, c'est-à-dire cette possibilité justement de vaincre l'irréversibilité du temps
et d'arriver sans le figer dans le souvenir.
Oui, d'arriver par l'écriture à retrouver quelque chose de perdu. Évidemment, Proust, enfin, on en parlera, mais par l'écriture ou par la musique ou par la peinture, d'arriver tout de même à faire surgir dans le présent quelque chose qui semblait irrémédiablement perdu.
Qui semblait passé et sans le côté passéiste.
Oui, et disons que ça, c'est pas suffisamment...
Donc c'est revivre, mais c'est la nouveauté en fait. Oui. Il y a le re qui change tout.
Exactement. Exactement.
Alors je précise quand même que le texte de Tolstoï, j'avais perdu tout à l'heure, c'est « Histoire de la journée d'hier » et ça date de 1851. On écoute un autre extrait de Jean Kélévitch.
La nostalgie est une mélancolie humaine rendue possible par la conscience, qui est conscience de quelque chose d'autre, conscience d'un ailleurs, conscience d'un contraste entre passé et présent, entre présent et futur. Cette conscience soucieuse est l'inquiétude du nostalgique. Le nostalgique est en même temps ici et là-bas, ni ici, ni là, présent et absent, deux fois présent et deux fois absent. On peut donc dire à volonté qu'il est multiprésent ou qu'il est nulle part. Ici même, il est physiquement présent, mais il se sent absent en esprit de ce lieu où il est présent par le corps. Là-bas, à l'inverse, il se sent moralement présent, mais il est en fait et actuellement absent de ces lieux chers qu'il a autrefois quittés. L'exilé a ainsi une double vie, et sa deuxième vie, qui fut un jour la première, et peut-être le redeviendra un jour, est comme inscrite en surimpression sur la grosse vie banale et tumultueuse de l'action quotidienne. L'exilé tend l'oreille pour percevoir le pianissimo des voix antérieures à travers le vacarme tonitruant de la rue, de la bourse et du marché. Ces voix intérieures, ce sont les voix du passé et de la vie lointaine, et elles chuchotent leurs secrets nostalgiques dans la langue de la musique et de la poésie. Celui qui se sent isolé comme un étranger parmi les étrangers et comme le survivant mélancolique d'une époque défunte en pleine actualité, se sent par là même solidaire d'une autre cité dont il est le citoyen, d'une autre patrie, d'une ville invisible, d'une république lointaine. Cette république est une sorte de présence absente, un ailleurs atmosphérique et vaporeux, une ville pneumatique que l'exilé entrevoit par transparence et comme en filigrane à travers l'agitation de la ville étrangère. L'image de la patrie lointaine fait de notre présence au monde une présence distraite, une présence absente. Le nostalgique, troublé par la douceur du vague à l'âme, envoûté par l'alibi du passé, est comme un somnambule ici-bas. Et inversement, les lieux lointains de l'absence deviennent pour le nostalgique le théâtre d'une seconde vie, d'une vie poétique et rêveuse, d'une vie fantomale qui se déroule en marge de la première. En marge de l'encombrante quotidienneté et de ses tâches prosaïques, une vie onirique se déroule qui est irréelle comme un songe.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Voilà cette vie poétique qui permet peut-être aux nostalgiques d'échapper à cette amertume, à ce désespoir que décrit au début Jean Kelevitch dans son livre, mais qui ici, en fait, est embelli, valorisé, recherché.
Oui, tout à fait. Et là, c'est comme s'il nous répondait, n'est-ce pas ? Parce que on pouvait avoir le sentiment, dans ce qu'on a dit précédemment, qu'il était critique à l'égard de la nostalgie, du désir du retour en arrière. Et là, dans ce passage sur l'exil, d'une très belle poésie. Enfin, je pense que tout est très, très clair et cristallin et qu'il n'y a aucune critique de l'exilé. Au contraire, il y a une compréhension intime de cet état dans lequel se trouvent tous les exilés, qui est d'être ni ici ni là-bas et d'être en même temps ici ailleurs. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai éprouvé dans ma vie. Lorsque mes parents ont choisi d'aller vivre en Israël, j'avais 13 ans. Et ce qui m'a travaillé dès le premier moment où j'ai mis le pied en Israël et jusqu'à ce que je revienne en France 8 ans plus tard, c'était mais que se passe-t-il en France maintenant ? Est-ce que les gens qui m'ont connu continuent de penser à moi ? Que deviennent-ils ? Et moi, qui aurais-je été si j'étais restée là-bas ? Donc l'exil vous met face à la question, qui est celle aussi de Bergson, du temps et de l'espace, n'est-ce pas ? Parce que vous pouvez être dans un temps donné de votre vie, enfin moi je n'ai pas cessé d'avoir 13 ans et demi du jour au lendemain, en partant en Israël, j'avais une heure, un jour de plus, mais le changement de lieu avait radicalement modifié mon existence. Et quand il parle là du vague à l'âme, je réfléchissais à la manière de traduire l'irréversible et la nostalgie en hébreu, par exemple. Et en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire la nostalgie. Et il y en a un qui est plutôt l'équivalent de la saudade, en portugais, qui n'existe pas en français. Il y en a un autre qui est une aspiration, comme une sorte de tension vers... c'est le mot zika. Enfin, on a gagouim, zika. On a kisoufim, qui est un mot merveilleux, dont la racine est la couleur argent, la lumière argent. Et c'est comme si vous recherchiez l'étincelle argentée de quelque chose de perdu. Tous ces mots existent en hébreu, n'existent pas en français. Et je me demande parfois quel livre il aurait écrit s'il parlait une autre langue.
Quel terme il aurait employé.
Parce que la langue de Jean Kelevitch est le français, mais il venait de parents russophones qui avaient connu l'exil et la nostalgie. Et je crois qu'il avait beaucoup de pudeur. Il ne s'est jamais beaucoup livré sur son histoire familiale. Il ne s'est jamais beaucoup livré sur la guerre et il en a parlé, évidemment.
Il a changé d'identité, il a été déchu de ses droits.
Deux fois. Une fois en tant que juif et une autre fois en tant qu'étranger, parce qu'il était né. Alors que cet homme, il faut quand même le dire, avait été l'étudiant en philosophie le plus brillant de France. Mmh. Il est arrivé premier au concours de l'ENS, premier au concours de l'agrégation. Enfin, c'était un esprit étincelant. Et il dit, il a connu cette déchéance. Mais il n'en parlait jamais de manière très intime. Et donc, je crois que sur la nostalgie, il y a peut-être des creux dans l'œuvre de Jean Tillévitch qui sont liés à son intimité.
Surtout que ce titre, l'irréversible et la nostalgie, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de quelle nostalgie parle-t-il, puisque il va à la fois critiquer la nostalgie au début en disant, il parle même du cœur sec, de la sécheresse du cœur du nostalgique qui veut retourner à tout prix sur le lieu qui l'a bouleversé et en fait est simplement déçu. Il dit voilà, ça aurait été un très bon sujet à donner à Pascal. Il disait le fait de remplacer en fait le beau sentiment de la nostalgie par la vulgaire, la triviale déception, ou même par exemple quand il parle de Ulysse qui revient à Ithaque, il dit ça c'est le rêve de tous les nostalgiques de revenir à Ithaque et que tout soit comme avant. Mais lui nous dit, mais imaginez si on avait écrit la suite. Ulysse serait ennuyé avec Pénélope, il n'aurait rien fait. Et en fait, il aurait été nostalgique de ses aventures avec Circé et Calypso. Donc, il a plutôt ça. D'un côté, il y a cette nostalgie-là, et puis il y a la nostalgie qu'on a entendue là. Où là, il y a quand même des vies en surimpression, il y a des odeurs, et en même temps, il y a quand même un trou dans cette nostalgie.
Oui, il y a un trou, mais ce qui est très beau dans ce qu'il dit de l'exil, c'est que je crois que ça nous permet d'approcher un tout petit peu quelque chose de cette condition quand même, encore une fois mystérieuse, qui est la nôtre. C'est l'exilé, plus que quiconque, a conscience que le temps s'écoule, comment dire, que le temps réel ne recouvre pas la même chose selon l'endroit où l'on se trouve. Et cette diversité infinie d'expériences humaines simultanées, c'est déjà en soi quelque chose de vertigineux et qui devrait inciter à l'humilité. Moi, je sens que Jean Tillévitch nous incite à l'humilité, mais une humilité libératrice, parce qu'on ne peut pas saisir... Voilà, l'exilé, lui, oui, il peut d'une certaine manière être dans le bruit de la rue et dans ce pianissimo des voix qui s'expriment dans un autre endroit. Et à travers cette perception qu'il a du lieu où il se trouve et du lieu qui lui a été arraché ou qu'il a quitté, il pointe un tout petit peu, il déchire un tout petit peu l'opacité de ces multiples destins qui ont lieu en même temps sur Terre et dont on n'arrive jamais à percer le secret finalement, parce que non seulement ils sont multiples, ces destins, mais ils ne cessent de se transformer en permanence.
Oui, c'est vraiment le philosophe presque anti-système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser par généralité. Il y a quelque chose de la singularité qui va résister, c'est le je ne sais quoi.
Ah oui.
Quelque chose vraiment qu'on ne peut pas attraper et il nous oblige effectivement à cette humilité qui au départ pourrait être comprise, comme je l'ai dit au début, comme une forme presque de tristesse, parce que dans ce, j'ai dit de désespoir ou d'impuissance, mais là il y a quelque chose de triste quand il parle d'une autre patrie, d'une ville invisible, d'une république lointaine. Il y a aussi des très belles pages, et il reprend encore l'exemple de Capri, c'est quand même très drôle, il dit, on comprendrait que quelqu'un qui vient de Capri regrette Capri, mais en fait, on ne regrette pas Capri, on regrette son village du Nord-Pas-de-Calais, où les paysages sont tristes, et où il fait froid, c'est ça la vraie nostalgie. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une tristesse qui est presque un peu romantisée parfois.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être, on va dire, je sais pas, son âme slave aussi, hein, parce que ça revient quand même dans les entretiens. Il est né de parents russophones et russes, et il aimait les auteurs. Enfin, il lisait les auteurs russes. Donc, il y a ce romantisme, même s'il s'est défendu après-guerre aussi d'un certain romantisme allemand qui exalte peut-être la nuit et la mélancolie. Moi, ce que j'aime, c'est que ce texte ne nous demande pas de choisir une fois pour toutes. Il nous demande, en fait, d'être capable de réinterroger à chaque instant, parce que les dés sont jetés et rejetés par la vie à chaque instant. Il nous demande de les jeter, de lire les combinaisons.
Il
n'y a pas de destin. Enfin, peut-être il y en a un, je ne sais pas.
Mais on le connaîtra Pas forcément.
Bah, de toute façon, il se dévoile au fur et à mesure et on n'en connaît ni le début ni la fin. Parce que vous disiez, quand j'avais beaucoup aimé, quand vous avez dit que ce livre est peut-être une clé de voûte, c'est-à-dire que l'irréversible et la nostalgie se relient à l'aventure, l'ennui, le sérieux, ou bien la mauvaise conscience, un autre de ses livres, ou même à l'alternative, un des tout premiers, et à la mort. Il a quand même un livre qui s'appelle « La mort ». Et qui est plein de vie.
Et il y a aussi le pardon.
Et le pardon.
Parce qu'il y a aussi ce rapport-là. C'est-à-dire que quand on est dans le regret ou dans le remords, dans l'irrévocable ou dans l'irréversible, il faut développer une éthique qui soit adaptée en fait, au temps qui passe.
Tout à fait. Et il développe une philosophie morale à partir de tout ce questionnement. Et donc, dans ces différentes approches du temps, il y a aussi une phrase que je retiens, je crois que c'est dans La mort, où il dit qu'il y a deux miracles, la naissance et la mort. Pas des miracles au sens théologique, mais au sens de ce sur quoi notre esprit bute parce que ça nous dépasse. Et Jean Kélévitch fait face à ce qui nous dépasse du début à la fin. Il y a ces deux grands événements qui encadrent nos vies, la naissance et la mort. Et au milieu, il y a des naissances et des morts qui se jouent à chaque instant.
C'est peut-être pour ça qu'on comprend que 20 ou 30% de Jean Kélévitch, parce que lui-même, en fait, ne prétendait pas tout comprendre.
Exactement.
On va écouter un autre extrait d'un autre texte que vous avez tenu à entendre, Valérie Zenati, un texte écrit en 1942 qui s'intitule « Le Nocturne ».
Les arbres sont profonds et les branches sont noires. Les arbres sont profonds et les branches sont noires. Il y a quelque chose à minuit qui fait battre le cœur. À minuit commence la vita nova. Je veux dire, le chaos dans la nature et le chaos dans la conscience, en même temps que se célèbrent les noces de la conscience et de la nature. Car comme tout est lié sympathiquement à l'intérieur du macrocosme et à l'intérieur de l'âme, ainsi l'âme découvre de soi aux choses une foule de liens nouveaux, des sympathies entre les sympathies. Tous les bruits de l'univers trouvent leur écho dans la conscience. Et inversement, la conscience recouvre son pouvoir magique sur les bêtes, les fleurs et les métaux. La nuit sur la nature n'est plus une allégorie de la nuit spirituelle. Mais ces deux nuits ne sont plus qu'une seule et même nuit. La lettre et l'esprit, le sens propre et le sens figuré se rejoignent. Et les analogies ne sont plus des métaphores, mais la vérité vraie. Le mystère de la nuit ne se révélera pas aux bourgeois qui la passent à dormir dans leur lit, mais seulement à ces lunatiques dont la lune est la patronne et qui cherchent l'ombre parce qu'ils ont trop aimé la lumière. Amour est noctambule et incorrigiblement vagabond. La conscience nocturne à son tour est bien érotique en cela. Toutes ces nuits sont des nuits blanches. Dès que le soir tombe, elle se livre à l'exaltation onirique, sort prendre son bain de ténèbres et va courir les aventures. Elle traînera, ivre de lune, jusqu'à l'heure de l'aubade, jusqu'à ce sage matin qui ramène, hélas, le mari ou l'épouse, les liens conjugaux et la raison. Rude nuit, inconfortable et passionnante. Qu'elle nous accorde le vrai sommeil, qui n'est pas un sommeil dans la plume, mais dans la piscine des songes et des ténèbres. Qu'au fantasque, à l'amant et au gueux, elle ne refuse pas cette lueur d'espérance qui s'allume tous les soirs dans la profonde ébène de minuit. Qu'elle apporte la paix à nos cours de minuit.
Vous auriez pu réciter le texte, Valérie Zenati. Vous le disiez en surimpression comme la deuxième vie du nostalgique.
Ah oui, mais c'est de la poésie. Alors je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, justement, et c'est la tragédie voilà.
Non, allez, vous avez le temps pour en parler. Allez-y.
Des émissions qui scandent le temps. Ce texte, Jean Kélévitch l'a écrit, l'a publié le 5 mars 1942. Il vivait à Toulouse sous une fausse identité. Et grâce à ses étudiants, il a transmis le texte à Lyon. Et c'est un texte très court sur le nocturne, donc le genre musical du nocturne, sur lequel voilà, il disserte, et dont je me suis offert l'édition originale, j'ose l'avouer.
Alors comment est-elle ?
C'est comme un fascicule magnifique, magnifiquement imprimé, dédicacé. Donc j'ai, voilà, pas à moi, mais il est dédicacé.
Donc avec l'écriture.
J'ai l'écriture de Jean Kelevitch, oui, sur le nocturne et sur l'alternative. Je me suis offert ça à des moments de ma vie.
C'est un beau cadeau.
Ou à des moments de ma vie où j'arrêtais de fumer, ça m'arrive, et je mettais de côté l'argent non dépensé dans des paquets de cigarettes et qui me permettait de m'offrir ces trésors. Et pourquoi ce livre m'a percutée? Parce que Jean Kelevitch, en plein cœur de la nuit européenne, de la nuit de l'histoire, comme on peut le dire, écrit tout à coup, non pas sur le bien, le mal, la vie, la mort, mais sur le nocturne. Et vous l'avez entendu là, avec cette fin d'une poésie inouïe sur les beautés de la nuit. Moi, je suis très, très attachée à la nuit. J'ai beaucoup aimé étudier la nuit, vivre la nuit, être éveillée la nuit. Et une nuit assez romantique, assez très très belle, où voilà, l'amant, le fantasme, le gueux, en fait, il oppose la nuit à la journée bourgeoise, on va dire. Et dans un texte, il a écrit sur Braunschweig, qui était un de ses maîtres, et sur lequel, avec lequel il a eu un échange pendant la guerre sur ce texte, il revient sur le fait que Braunschweig lui reproche peut-être d'avoir exalté la nuit romantique allemande, telle que les Allemands l'exprimaient dans ce dualisme entre la nuit et le jour, la raison et
la poésie.
Et la poésie. Il le regrette un peu, tout en ne le regrettant pas tout à fait.
Plutôt des remords, alors.
Plutôt des remords, voilà.
Voilà, parce que dans l'irréversible et la nostalgie, il y a vraiment les remords, en fait, qui échappent à l'irréversible, parce qu'en fait, on s'en veut.
Oui,
le passé
exactement.
Ne se nihilise pas, nous dit-il.
Tout à fait.
Alors que les regrets, bah, c'est le temps qui passe. Donc, le passé se nihilise, et là, il y a la poésie.
Exactement, exactement. Mais je crois que, moi, en tout cas, j'ai de la gratitude pour lui. Parce que la dernière phrase, qu'elle apporte la paix à nos cœurs de minuit, là, pour moi, il rattache évidemment, et je crois même qu'il le dit ensuite en parlant, dans son échange avec Braunschweig, il rattache la nuit noire de l'histoire, et il prouve qu'il a essayé d'arracher la beauté de la nuit, malgré tout, à cette nuit noire de l'histoire. Et pour moi, c'est un geste de résistance, de liberté, pour lequel j'ai beaucoup de gratitude, et qui permet de se ressaisir, même dans les heures les plus sombres, on peut se ressaisir de ce qui nous touche, de ce qui nous détruit peut-être, pour en faire ce que lui fait là, c'est-à-dire une interrogation et un espace où la poésie va dépasser l'histoire.
Parce que là, en plus, on n'est plus dans la complaisance. C'est-à-dire vraiment, là, on est aussi, il y a un chapitre dans l'irréversible et la nostalgie qui s'appelle « Le consentement à l'irréversible
».
Et on y trouve des pages magnifiques sur l'amour, sur le courage, sur l'improvisation, sur l'aventure. Là, la nuit offre ça, en fait.
Totalement. Oui, pour moi, ça se rejoint vraiment, même si voilà, les deux textes ont été écrits à peu près à 32 ans d'écart.
Oui, oui.
Mais c'est lui, c'est toujours lui. C'est-à-dire, c'est lui dans ses facettes changeantes aussi, je crois.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années.
parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non.
Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais.
Cette chanson, Valérie Zenati, Hervé Villard, Capri, c'est fini, pour clore notre échange sur Jean Kélévitch qui cite, et eh oui, à foison Capri. Et pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que non, décidément, vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi? Je crois alors, qu'il n'y en a pas qu'un en plus.
Voilà, il n'y en a pas qu'un. J'en ai choisi plusieurs.
Non, vous êtes généreuse.
Ou en tout cas, ou bavarde peut-être, mais surtout, cette question-là de la façon dont on accueille une œuvre est une question qui me travaille beaucoup. Alors, je pense que c'est souvent une question de temps. Par exemple, Kafka est un auteur que j'ai essayé de lire à 20 ans sans parvenir à l'accueillir et que j'ai découvert réellement à 40 ans avec le sentiment d'avoir trouvé un frère qui m'accompagne toujours. Et donc, la question du temps, du bon moment, du timing, comme disent les anglo-saxons, est primordiale en littérature. L'auteur que je n'arrive pas à lire vraiment jusqu'au bout, comme certains, c'est Marcel Proust, et c'est À la recherche du temps perdu. Non pas par...
Et là, est-ce que vous avez essayé à plusieurs reprises? Donc ah là, oui. C'est pas une question de timing.
Alors,
là,
je l'ai
après.
Commencé 6 fois. Voilà, donc à chaque fois, je reprends.
Chaque grande période de votre
mais,
vie.
Mais à chaque fois, je reprends pas là où je m'étais arrêtée.
Non.
Je reprends du début. Et en ayant l'espoir de... un jour, et ce sera sans doute le bon moment pour moi, de parvenir à tout lire. Je pense, je le dis très honnêtement, que ce qui me résiste un peu, outre le fait que l'œuvre est quand même conséquente, c'est qu'à certains moments, la multiplicité des personnages... Moi, j'ai un petit problème quand je lis un livre où il y a beaucoup de personnages. Mmh. J'en fais la confidence ici. Alors, je l'ai eu avec Vie et Destin de Vassily Grossman. À un moment, j'ai accepté là aussi de ne plus savoir qui était qui.
Qui était qui. Ça peut le faire aussi avec Tolstoï, par exemple, dans Guerre et Paix, surtout oui. Que voilà, les noms peuvent
ils ont
changer.
Tous trois noms, voilà, un surnom. Et exactement, on a ça chez Dostoïevski aussi. Intellectuellement, en tout cas, je suis peut-être pas assez armée pour intégrer une œuvre où on a une multiplicité de personnages, parce que je m'attache à chacun. Donc peut-être que ça me rend la lecture de la recherche un peu difficile pour l'heure, mais j'y aspire. Et il y a un auteur que je n'ai pas
lu.
Le
troisième.
Et je crois que je ne le lirai pas, c'est Céline.
Jamais ouvert.
J'ai ouvert Voyage au bout de la nuit, et je l'ai refermé au bout de quelques pages. Je sais qu'il a beaucoup compté pour beaucoup de gens. Alors, chez Céline, il y a, bon, évidemment, tout l'aspect rageux, haineux, aigri, antisémite, qui est rebutant. Mais je dirais qu'en fait, moi, un auteur m'intéresse pour l'expérience qui me fait traverser à la fois du temps et de la langue. Et je sens que autant des auteurs, les auteurs que je viens de citer, que je n'ai pas lus ou découverts tard, apporte quelque chose à ma langue dont j'ai envie et besoin, autant Céline, je crois que je n'ai pas envie que la langue de Céline
vous contamine.
La mienne. Oui.
Il y a quelque chose de toxique.
Oui, je n'ai pas envie de ça. Et je n'en ai peut-être pas besoin. Mais comme rien n'est... comme le temps continue de s'écouler, peut-être que je vous dirai le contraire dans 10 ans. Aujourd'hui, et je sais que je n'ai pas envie de le lire, parce que je n'ai pas envie que cette langue entre dans la mienne.
3 bonnes raisons, timing, problème de personnage ou langue toxique.
Oui.
3 bonnes raisons de ne pas lire 3 auteurs tout à fait différents. Merci beaucoup Valérie.
Merci
Zenati.
Tellement à vous et à toute votre équipe.
Merci beaucoup, on était ravis de vous recevoir. De vous, on peut lire La surprise, une innocence renouvelée aux éditions Autrement, votre traduction du roman d'Aaron Appelfeld, La ligne, aux éditions de l'Olivier, et aux mêmes éditions, je cite votre roman Qui vive. Et pour lire L'irréversible et la nostalgie de Jean Kélévitch, il faut le lire, n'ayez pas peur de ne pas comprendre, c'est pas grave, c'est disponible en chant Flammarion. un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation, à Anaïs Isbert à la lecture des textes, à Guirec Corbin à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.